Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode du balado Affaires d'État des collines aux tribunaux, le balado des programmes de droit et politique appliquée de l'État de l'Université de Sherbrooke, généralement appelé DPAE. Je suis Marie-Sophie de Mauflis, docteur en droit et chargée de cours à forfait pour les programmes de DPAE. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Sam Arsenault, étudiant en première année au baccalauréat en sciences politiques. Bonjour Sam.
Bonjour Marie-Sophie et bonjour chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir M. Benoît Dubreuil et Mme Stéphanie Cashman-Pelletier. Monsieur Dubreuil qui est commissaire à la langue française et Madame Cashman-Pelletier qui est commissaire adjointe à la langue française et avocate. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour vous deux.
Donc, avant d'aborder ce qui a trait à votre rôle en tant que commissaire à la langue française et à vous en tant qu'avocate et commissaire adjoint, j'aimerais commencer par votre parcours, si vous le voulez bien. Donc, pouvez-vous nous résumer un peu votre parcours académique et professionnel de vos dernières années?
Alors, peut-être que je peux commencer. Alors, moi, j'ai un parcours assez diversifié, en fait, qui ne me prédestinait pas nécessairement à occuper ce poste. Donc, j'ai commencé mes études universitaires en philosophie. Donc, moi, je suis vraiment un produit de la philosophie et de l'étude des langues aussi. Donc, le russe, l'allemand notamment. J'ai fait un bac en philo à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise en philo à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai fait un doctorat en philosophie à l'Université libre de Bruxelles, tout en apprenant là, différentes langues et en faisant aussi des séjours à l'étranger. Moi, je suis quelqu'un qui s'intéressait vraiment aux questions, fondamentales là, en philosophie sur l'éthique, sur le fondement aussi de la collaboration, la coopération, le fondement du langage. Donc, j'ai mené des recherches sur ces questions-là. C'est là-dessus que j'ai fait mon doctorat. J'ai fait différentes publications. Mais aussi, en parallèle de ça, en parallèle de mes études, de mes recherches, j'ai aussi travaillé dans le contexte universitaire comme professionnel de recherche, plutôt comme en relations internationales, en affaires internationales, sur les politiques publiques, politiques sociales notamment. Donc, j'ai été agent de recherche pendant que je faisais mon doctorat dans un centre qui s'appelle le Centre d'études et de recherche internationales de l'Université de Montréal, donc que j'avais contribué à fonder là, en 2004 au moment de la création de ce centre. Et puis, j'ai fait beaucoup de travail, disons, en parallèle de mes recherches fondamentales sur les politiques sociales, notamment les politiques d'emploi, les politiques de lutte contre la pauvreté. Et par la suite, quand j'ai eu terminé mon doctorat, j'ai eu les bourses postdoctorales. Donc, j'ai publié, j'ai participé à beaucoup de conférences et tout ça. Et vous connaissez peut-être le milieu académique. Moi, je rêvais de devenir professeur d'université. Et là, bon, ça fonctionnait pas. J'ai eu des entrevues, mais ça débouchait pas nulle part. Et finalement, j'ai été recruté, à ma grande surprise, en fait, par un concours dans la fonction publique fédérale qui s'appelle le concours de recrutement de leaders en politique. Donc, j'ai fait mes valises et puis on est déménagé à Gatineau avec ma famille. Ça fait une quinzaine d'années de ça. Et depuis, en fait, ça a été un feu roulant, donc, de postes dans différents ministères, aussi bien à Québec qu'à Ottawa. Donc, j'ai occupé des responsabilités vraiment là, dans différents domaines. Au début, c'était sur les politiques d'emploi, les politiques sociales que je connaissais déjà bien. Ensuite, je me suis orienté plus vers les politiques de l'enseignement supérieur. Par la suite, j'ai passé beaucoup d'années en fait à travailler sur l'enseignement supérieur. Là, c'est un des domaines que je connais très bien. Par la suite, j'ai travaillé aussi sur les questions autochtones. Donc, j'ai été au Service aux Autochtones Canada, par exemple, pendant 3 ans. Par la suite aussi, j'ai travaillé sur les questions d'évaluation environnementale à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Donc, vraiment, quelles sont les répercussions des grands projets de développement économique. Donc, j'ai vraiment touché un peu à tout dans les 2 ordres de gouvernement. Et je pense que c'est une sorte de polyvalence que j'ai développée, qui a sans doute intéressé les gens là, dans mon profil pour m'approcher là, pour ce poste de commissaire à la langue française. Donc moi, ça faisait quelques années que j'étais retourné du côté fédéral. J'avais un intérêt à venir travailler pour le gouvernement du Québec. J'avais manifesté mon intérêt et on m'a approché pour ce poste-là, ce qui m'a surpris au départ, mais quand même, en présentant, puis en y réfléchissant, puis en voyant ce que je pouvait ou voudrait en faire. Je pense avoir réussi à convaincre que je pouvais être la bonne personne.
Super. Ben écoutez, super intéressant. Là. Effectivement, très polyvalent. Un bon gros parcours. Je suis impressionné.
Moi aussi.
Et puis, vous, Madame Cashman-Pelletier?
Oui, moi, alors, mon parcours est complètement différent. J'ai d'abord fait un baccalauréat en droit à l'Université Laval et ensuite le barreau. Donc, je suis membre du barreau depuis 1992. J'ai également suivi la formation de gouvernance des organismes sans but lucratif du Collège des administrateurs de société. Et je fais également partie de la sixième cohorte de l'Institut de la diplomatie. Sur mon parcours professionnel maintenant, j'ai commencé ma carrière comme avocate en pratique privée à mon compte pendant quelques temps. Ensuite, après avoir fait un petit tour dans un cabinet ministériel, d'avoir travaillé aussi à la commission permanente de révision de la liste électorale, je suis entrée dans la fonction publique en 2001, donc ça fait déjà un bon bout de temps. D'abord comme agente de recherche en droit où je m'occupais de sécurité en véhicule hors route, sécurité routière, donc les lois qui encadrent les pratiques de tout ça. Et je suis quand même devenue gestionnaire rapidement après. Donc, ça fait maintenant presque 19 ans, 20 ans là, que je suis gestionnaire dans la fonction publique. D'abord, comme chef des politiques de sécurité. Donc, toujours en sécurité routière, j'étais au ministère des Transports, sécurité routière, sécurité véhicule hors route. Ensuite, comme directrice des politiques et de l'intégrité du territoire au ministère des Ressources naturelles. Ensuite, je suis devenue directrice générale du registre foncier et officier de la publicité foncière. Donc, tous des domaines complètement différents. À ce moment-là, comme officier de la publicité foncière, j'étais nommée par le ministre de la Justice et le ministre des Ressources naturelles. C'est un poste qui est créé dans le Code civil et j'ai exercé ces fonctions-là pendant 9 ans à peu près. Et à la suite de tout ça, la sous-ministre m'a demandé d'occuper le poste de secrétaire générale du ministère et directrice du bureau de la sous-ministre. C'était le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles à l'époque. Et par la suite, j'ai occupé les mêmes fonctions au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et finalement, l'an passé, j'ai été nommée par le Conseil des ministres au poste de commissaire adjointe à la langue française comme titulaire d'emploi supérieur. Alors, tout ça m'a permis de développer quand même pas mal d'expertise, aussi de faire un bon tour là, du fonctionnement de l'État. Alors, ça a été, j'ai piloté beaucoup, beaucoup de projets de loi aussi. C'est un petit peu ça qui est le fil conducteur, d'ailleurs. C'est la législation, c'est le droit, c'est les politiques, tout ça, là, donc, qui est le fil conducteur, malgré des sujets toujours un petit peu différents. Donc, j'ai piloté l'adoption de peut-être une douzaine de projets de loi, ce qui est vraiment beaucoup, et de plusieurs règlements également. J'ai coordonné des tournées ministérielles pour les ministres des différents ministères où j'étais. J'ai mis en place des tables de concertation régionale. Alors, j'ai donné dans vraiment plusieurs aspects là, du gouvernement, en fait, de l'exécutif. Et ensuite, comme secrétaire générale de ministère, j'ai développé une expertise à ce moment-là plus en gouvernance et davantage aussi en relations internationales, relations intergouvernementales. Et donc, parallèlement aussi à tout ça, j'ai été très engagée dans la communauté. Je trouvais important de faire partie de conseils d'administration d'organismes sans but lucratif, parmi lesquels Opération Nez Rouge là, pendant une dizaine d'années et puis donc plusieurs années comme présidente du conseil d'administration. Donc, c'est un petit peu ça, le fil conducteur, comme je le mentionnais. Donc, c'est le droit, c'est les politiques et tout ça, mais c'est aussi un engagement profond envers la chose publique et envers le service de l'État.
Ben, c'est encore une fois assez impressionnant, je ne sais pas pour vous Marie-Sophie, mais oui. Moi en tant qu'étudiant de première année, mon CV se résume à peut-être 2 lignes, alors que le vôtre à vous deux est quand même très long, et encore une fois, je trouve ça très impressionnant.
Marie-Sophie, bon, on n'a pas le même âge.
Ouais, c'est ça.
Je trouve ça tout aussi impressionnant.
En même temps, voilà.
Exactement. Je trouve ça tout aussi impressionnant, et de voir à quel point vous êtes investi dans la chose publique et votre parcours dans la fonction publique, effectivement, et remarquable. Également, ce qui est remarquable dans vos parcours, c'est la diversité et l'interdisciplinarité en fait, de vos parcours, autant professionnels que estudiantins auparavant. À ce propos de cette interdisciplinarité, on pourrait aborder davantage votre rôle, donc le rôle de commissaire et le rôle d'adjointe. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne le sauraient pas, la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke offre, en collaboration avec l'École de politique appliquée, un programme de DESS en droit et politique appliquée de l'État. Et vos fonctions, justement, me semblent être de beaux exemples d'emplois dans lesquels le droit et la politique se rejoignent. Alors à ce propos, pourriez-vous justement nous parler plus concrètement des fonctions que vous occupez et de la façon dont le droit et la politique s'agencent?
Oui, c'est intéressant. Donc, vous avez peut-être vu entre Stéphanie et moi, il y a justement peut-être un peu cette espèce de dualité de Stéphanie un peu plus juridique, un peu plus droit, moi peut-être un petit peu plus politique, donc des forces qui sont complémentaires. Stéphanie a expliqué là, que la dominante, en fait, dans son parcours, c'était beaucoup le développement réglementaire, le développement de la législation. Moi, la dominante, c'était plutôt l'évaluation des politiques, les effets socio-économiques, les situations sociales complexes. Et les postes que l'on occupe, justement, commissaire, commissaire adjoint, sont vraiment centrés, je pense, sur un mandat qui implique justement la capacité de mettre en relation ces deux mondes-là. Parce que la réalité linguistique du Québec, c'est une réalité sociale, c'est une réalité socio-économique qui est extrêmement complexe. Il y a tout un environnement juridique qui autour de ça, justement, qui vise à promouvoir, qui vise à maintenir la vitalité du français, qui est lui-même extrêmement complexe. Donc, ça nous prend une équipe, justement, qui est polyvalente, qui est capable de mettre les deux choses ensemble. Donc, concrètement, le poste de commissaire à la langue française, c'est un poste qui a été créé lors de la mise à jour de la Charte de la langue française en 2022. Donc, une mise à jour qui a vraiment réécrit plusieurs sections, justement, de cette loi fondamentale. Essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu créer un poste d'une personne qui relèverait non pas d'un ministre ou d'un ministère, mais bien de l'Assemblée nationale elle-même. Donc, par opposition à la situation précédente où il y avait un conseil supérieur de la langue française qui a fait d'excellentes études à travers le temps, qui a fait un très, très bon travail, mais qui relevait d'un ministre responsable. Et là, je pense que les gens, les parlementaires se sont dit, considérant l'importance de la situation linguistique, le caractère souvent sensible et polarisé des enjeux, on préférerait avoir quelqu'un qui est nommé par l'Assemblée nationale plutôt que quelqu'un qui relève de l'exécutif. Donc, c'est vraiment l'objectif. Il y a deux grands pôles que je distingue souvent là, dans les fonctions. Le premier est plutôt lié à des responsabilités de contrôle de l'action gouvernementale, de vérification, de surveillance. Donc, essentiellement, je pense que les parlementaires veulent quelqu'un qui va leur donner leur juste d'une manière complètement indépendante de ce que l'exécutif peut faire ou peut dire. Quelqu'un qui a des pouvoirs d'enquête, de vérification, peut-être Stéphanie voudra en dire un peu plus. Et ça, c'est le premier pôle. Et le deuxième grand pôle de la fonction, à mon avis, c'est vraiment d'être capable d'offrir des avis indépendants, mais aussi fouillés et rigoureux sur l'évolution de la situation linguistique. Donc, quel est l'état du français au Québec? Quels sont les enjeux? S'il y a une évolution favorable ou défavorable, quelles sont les causes? Comment on peut agir sur ces causes également? Donc, pour moi, ces deux pôles, c'est vraiment ce qui définit la fonction. Puis je trouve justement qu'on a des compétences puis des profils là, qui sont assez complémentaires justement pour faire face à ces défis-là.
Oh, oui, pardon. Je voudrais ça revenir sur un point que vous avez mentionné. Là. Vous avez parlé des deux pôles. Bon, puis il y avait un côté plus au Québec. Si ça va bien, ça va moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire et comment réagir? Mais votre quotidien en tant que tel, à quoi ça ressemble? C'est quoi une journée typique pour vous?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas?
Les journées sont très diversifiées. En fait, c'est ça, comme Benoît l'expliquait, il faut comprendre, c'est ça, qu'avec la séparation des pouvoirs, nous, on se situe plutôt du côté législatif que du côté exécutif, contrairement, par exemple, au ministère de la langue française, qui, lui, va déterminer les orientations, les politiques et tout ça, faire les lois. Nous, de notre côté, on est plus dans la surveillance de tout ça, dans la formulation de recommandations aussi pour surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec. Et donc, c'est un rôle indépendant. Donc, ça aussi, ça nous confère vraiment une grande marge de manœuvre là, dans la formulation des recommandations qui sont faites par le commissaire. Et bien, nos rôles, sont définis un petit peu par la charte, mais en même temps, dans le cas du commissaire adjoint, c'est très laconique. Et donc, ça a été en fait défini par nous. Et comme première titulaire du poste, ben, on l'a défini ensemble, Benoît et moi, ce qu'était le rôle là, du commissaire adjoint. Dans mon cas, c'est beaucoup axé sur l'exemplarité de l'État, la conformité, donc tous les aspects aussi affaires juridiques, bien sûr. On sait que le commissaire adjoint doit être membre en règle du barreau ou de la Chambre des notaires, donc c'est un juriste. Et donc, tout le volet affaires juridiques est pris en considération de mon côté. Donc, tout ce qui est conformité, les analyses, les avis juridiques, les opinions qu'on peut formuler. Également, le volet enquête dont Benoît a parlé aussi. Donc, tout ça qui fait quand même partie des fonctions qui ont été dévolues au commissaire par la Charte de la langue française. Et aussi, je m'occupe des aspects de gouvernance. Donc, tout ce qui est planification stratégique, l'éthique, tous ces domaines-là qui sont reliés à la gouvernance. Et aussi les affaires internationales, les relations internationales qu'on peut vouloir entretenir avec des collègues qui font le même travail que nous et dans d'autres juridictions, parce que c'est toujours riche d'enseignement là, de s'inspirer des meilleures pratiques de ce qui se passe ailleurs. Donc, moi, de mon côté, je dirais, c'est un petit peu, si on veut résumer tout ça, ce serait peut-être les fonctions régaliennes. Ça ressemble un petit peu à ça, là, la partie qui relève de moi.
Peut-être j'aimerais ça intervenir sur la question des journées habituelles, en fait, pour notre équipe. La première chose à dire, c'est qu'on est parti de rien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un an et demi, là, moi, j'étais nommé, donc je suis arrivé, j'avais rien. On a eu le ministère du conseil exécutif qui m'a donné un appui au départ, un téléphone, un ordinateur, quelqu'un pour m'aider aussi pour les ressources humaines ou faire passer des factures. Et je me rappelle, là, dans les semaines suivant ma nomination, j'étais là tout seul avec mon petit attaché pour aller devant le bureau de l'Assemblée nationale pour faire voter des crédits puis expliquer ce que je voulais faire avec cet argent-là. Donc, on a parcouru beaucoup de chemin, en fait, je vous dirais, depuis une année et demie. Donc, mais créer une organisation, ça nous a énormément occupés. Donc, ça, c'est toutes sortes de tâches qui vont de la dotation. Donc, on est rendu à 18 personnes pour l'instant. Donc, doter des postes, faire des descriptions d'emploi, faire des processus d'embauche, recruter les gens, les intégrer, les accueillir. Toute la question des finances, se doter d'une structure, se doter d'une gouvernance, se doter d'un plan stratégique, se doter d'une planification, une façon de gérer les choses. Donc, ça, on a fait énormément de travail, notamment avec Stéphanie au cours de l'année qui vient de passer. Ça a occupé une grosse partie de l'équipe. Sinon, pour le reste, la plupart de l'équipe, je vous dirais, c'est des analystes qui vont essentiellement chercher à creuser les enjeux. Donc, nous, on est là pour avoir une expertise. Et notre valeur comme équipe vient du fait qu'on a une expertise et qu'on est capable d'aller parler aux parlementaires avec des informations qui sont validées, qui sont rigoureuses, avec une lecture justement de la situation qui ajoute quelque chose par rapport à ce que les ministères vont faire ou par rapport à ce que les chercheurs dans les universités vont faire. Donc, je pense qu'on a quand même réussi à le faire assez bien jusqu'à présent. On a doté, on a construit une équipe justement avec des analystes de haut niveau, avec des compétences qui sont variables et qui sont différentes, en fait, qui sont pas variables, en fait, qui sont diversifiées. Tout le monde est très bon, mais les compétences qui sont diversifiées, complémentaires. Et vraiment, on prépare des rapports. Hein, je vous dirais, c'est essentiellement ce que l'on fait. Donc, on trouve des thèmes qui nous semblent les plus importants pour l'avenir du français, pour la situation du français. On creuse, on s'assure qu'on a un angle original, qu'on a une valeur ajoutée et on fait la recherche, on fait l'analyse, on fait les rencontres, on va chercher l'information et ensuite on rend les informations publiques, on les dépose à l'Assemblée nationale et on essaie de communiquer à la fois aux parlementaires et au public le résultat de nos travaux. Donc, c'est essentiellement le travail que l'on fait.
Donc, justement, vous me parliez de votre équipe, Monsieur Dubreuil. Vous me disiez que vous étiez 18. Alors, je suppose que ça compose aussi votre équipe de politologues et d'avocats. Pourriez-vous me donner un aperçu de la globalité de votre équipe? Peut-être aller un peu plus en profondeur. Je sais que vous m'avez parlé des analystes, mais vraiment, une belle description de tout ça. Et d'ailleurs, bon, j'en profite, dans le cadre du programme de droit et politique appliquée de l'État, on forme ce genre de professionnels-là. Si jamais vous avez besoin de deux, trois autres personnes, vous pouvez nous contacter, on a des contacts ici.
On a des potentiels recrues pour vous.
Exact. Stéphanie, veux-tu y aller peut-être?
Oui, certainement. Bien, dans l'équipe qui relève de moi, il y a évidemment des gens qui ont des formations en droit. Hein, on ne s'en sort pas. Également en politique, en économie, en sociologie aussi, on a quelqu'un qui a fait un bac en enseignement du français et de littérature. Donc, on a des belles compétences aussi de ce côté-là. Relations internationales aussi. Et je dirais donc des expériences de travail aussi qui rajoutent à ça, qui donnent beaucoup de polyvalence. Alors, Benoît parlait des compétences diversifiées et c'est exactement vrai. Là, on a vraiment des gens qui sont polyvalents de par leur formation, mais de par leurs expériences de travail. Puis je pense que ce qui est la base commune à tout ce monde-là, c'est vraiment un amour profond de la langue française et de l'État du Québec. Donc, je pense qu'à partir de ça aussi, c'est important dans les fonctions qu'on occupe parce que c'est tellement spécifique, c'est tellement... on a des enjeux qui sont au-delà de simples enjeux professionnels. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir cet aspect-là là, d'engagement profond envers la langue française.
Une excellente réponse. D'ailleurs, je passerai peut-être à un sujet un peu plus d'actualité, si vous me le permettez. Il était possible de lire dans la presse, et je vous cite, « L'immigration a aussi un rôle à jouer, alors qu'un facteur déterminant de la consommation de produits culturels réside dans les préférences de son entourage. » J'aimerais vous entendre davantage peut-être sur ce dossier-là, peu importe M. Dubreuil ou Mme Cashman-Pelletier.
Alors, en fait, on a publié la semaine dernière une série d'études sur la question sur la situation linguistique du Québec. Je vous mets un peu en contexte. La loi, la Charte de la langue française, demande à l'Office québécois de la langue française à tous les 5 ans de produire un rapport, un suivi sur l'évolution de la situation linguistique qui doit toucher pratiquement tous les volets des usages, de l'usage des langues. Donc, ils ont publié ce rapport-là au mois de mai. Et la loi dit que le commissaire, dans les 6 mois qui suivent le dépôt de ce rapport, doit en faire l'analyse, présenter ses conclusions et proposer au gouvernement des mesures qui vont permettre d'inverser, en fait, les tendances défavorables aux Français. Donc, nous, on est en train de travailler là-dessus. On va déposer un rapport, là, justement, dans les prochaines semaines, avant le 22 novembre. En prévision de ça, on a mené un ensemble d'études. En fait, on a réalisé 6 études complémentaires qui visaient à documenter plus précisément pourquoi le français ou l'usage du français avait reculé dans un certain nombre de domaines. On a constaté ou on est capable de bien documenter, en fait, des reculs particulièrement sur le marché du travail et particulièrement dans le monde de la culture. Donc, dans le monde de la culture, c'est quand même intéressant parce qu'on trouve que, oui, il y a une baisse de l'utilisation du français, mais elle semble résulter, en fait, de plusieurs phénomènes qui se déroulent en même temps. Donc, premièrement, il y a un élément générationnel. Donc, chez les personnes de plus de 45 ans, par rapport aux personnes de moins de 45 ans, il y a un grand écart, en fait, d'utilisation du français dans la consommation culturelle que l'on interprète, en fait, tout simplement par le changement des habitudes de consommation en lien avec le numérique. Donc, les personnes qui ont grandi, disons, avant l'arrivée des plateformes, ont des habitudes de consommation tournées vers la télévision, tournées l'utilisation des doublages beaucoup plus, la radio, les médias traditionnels. Tandis que chez les plus jeunes, on voit qu'il y a eu un basculement vers l'anglais pour un grand nombre de produits, notamment tout ce qui a été affecté par l'arrivée des plateformes. On parle de la musique, on parle du jeu vidéo, on parle de tout ce qui s'appelle le domaine de l'audiovisuel. Donc, il y a un phénomène aussi, ça qui se trouve même dans les familles francophones, qui ne sont pas issues de l'immigration, où on est passé d'une écoute en famille de la télévision, notamment parce qu'on avait une télévision. Vous n'avez pas connu ça, mais moi, quand j'étais jeune, on avait une seule télévision à la maison, puis on avait une télécommande. Là, il fallait toujours se battre pour savoir qu'est-ce qu'on allait écouter. Donc, mais ça faisait en sorte qu'on écoutait tous la même chose. Donc, on avait le même point de référence. On avait quelque chose en commun. Aujourd'hui, évidemment, chacun a son appareil. Donc, on est libre. On peut écouter ce qu'on veut, mais on n'a plus rien en commun. Donc, c'est une des conséquences, en fait, de la plateformisation et de l'arrivée des écrans mobiles. Donc, ça, on voit l'effet dans l'ensemble de la population. Mais en plus de ça, donc on voit 2 autres couches, si vous voulez, ou 2 autres barrières chez les personnes qui sont issues de l'immigration. il y a un niveau encore moindre, en fait, d'utilisation du français dans les pratiques culturelles et même chez les personnes issues de l'immigration qui sont francophones. Donc, particulièrement chez les jeunes issus de l'immigration, deuxième génération, qui sont nés au Québec, mais avec un parcours migratoire, c'est ça, les parents qui sont nés à l'extérieur du Québec, il y a une utilisation du français déjà qui est moindre. Et chez les personnes, en fait, qui sont issues de l'immigration ou pas et qui ont adopté plutôt l'anglais comme langue habituelle, là, on est dans des niveaux de consommation, d'utilisation du français qui sont vraiment très, très faibles en culture. Donc, on essaie de comprendre pourquoi. Donc, pour moi, il y a vraiment trois barrières. La première, comme je l'ai dit, c'est les technologies qui ont changé la donne. Le deuxième, c'est que dans les pratiques culturelles et dans les choix culturels, on est vraiment beaucoup influencé par notre entourage. Donc, on est vraiment beaucoup influencé par nos parents, puis on est beaucoup influencé par nos amis. Et quand on regarde la littérature qualitative chez les jeunes issus de l'immigration, même francophones, on voit que dans les réseaux, souvent, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ne sont pas issus de l'immigration. Okay? Donc, il y a comme une barrière parce que les jeunes ne sont pas exposés par leurs amis ou sont moins susceptibles d'être exposés par leurs amis à des contenus culturels, soit québécois, soit francophones. Puis la troisième barrière, bien, c'est justement le fait que à partir du moment où la personne est plus à l'aise en anglais, plus forte en anglais, bien, spontanément, elle va être poussée à utiliser davantage l'anglais, surtout dans des pratiques culturelles qui sont numériques, qui sont 100% numériques, en fait, où on est dans l'univers digital où il n'y a pas de frontières. Donc, c'est vraiment la lecture que l'on fait. Et trouver des mesures pour favoriser le français dans ce contexte-là, c'est pas facile. Donc, il faut travailler à la fois sur les outils numériques et à la fois sur l'entourage pour que les gens soient en contact aussi avec des gens qui ont un intérêt pour ces produits-là, qu'il y ait des recommandations qui circulent aussi entre les gens, que tout le monde ait la chance d'être exposé, ce qui nous permet aussi de construire une culture commune et qu'on soit pas chacun, en fait, devant notre écran à se faire pousser des contenus par des algorithmes, puis on n'est plus capable d'avoir cette culture en commun qui nous permet aussi de vivre une vie authentique comme francophone en Amérique du Nord, de thématiser les problèmes que l'on a, les situations uniques que l'on vit, puis ensuite de faire le lien avec la démocratie. Parce que fondamentalement, c'est ça la culture, hein, c'est pas juste du divertissement. Oui, quand on écoute des séries ou des choses comme ça, on se divertit, mais quand on construit des références communes, ensuite, on crée les bases aussi d'une discussion démocratique. Puis je pense que si on perd la culture québécoise et francophone, on perd aussi ses références, puis on affaiblit notre capacité à discuter les uns avec les autres. Puis c'est vraiment là que c'est un enjeu.
Mmh. Et j'aimerais peut-être revenir à la première barrière que vous avez dit, justement, la diffusion de la technologie. Je serais curieux d'entendre votre avis, justement. Bon, on sait que les radios avaient un quota de chansons en français, ou en tout cas de français à promouvoir. Pareillement, il y a une crise des médias en ce moment. Vous m'avez parlé aussi des jeux vidéo. Bon, il y a Ubisoft Montréal qui crée du contenu de jeux vidéo qui est francophone. Comment vous pensez les médias? Comment aujourd'hui l'état des médias au Québec? Votre avis là-dessus, là, est-ce que c'est favorable ou non pour la langue française, là?
Ben, le défi, c'est un peu ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire qu'on a un écosystème qu'on avait construit dans les années 60 et 70 qui s'était montré très résilient, qui fonctionne encore, dans lequel vivent encore la plupart des francophones de 45 ans et plus. Et ensuite, ben, il y a un décrochage générationnel chez les générations plus jeunes où les gens vont accéder à l'information à travers des réseaux sociaux, notamment l'écoute de l'audiovisuel, les séries et tout, ça va passer par les différentes plateformes. Et puis, on a tout un univers aussi qui est apparu, qui est prédominant dans la vie des jeunes, mais auquel les décideurs portent peu d'attention. C'est tout le monde des médias sociaux, en fait, des YouTubers, des influenceurs, qui sont souvent, en fait, je pense aujourd'hui, certains des plus grands, c'est souvent les gens qui ont le plus d'audience, même chez les francophones, mais on leur porte, la plupart des adultes ne les connaissent pas, par exemple, ils ne savent même pas qu'ils existent. Donc, par exemple, si vous prenez n'importe quelle personne de mon âge, moi j'ai 45 ans et plus, vous leur demandez de nommer un des 10 YouTubers les plus écoutés du Québec ou de la francophonie, la plupart des gens ne sont pas capables d'en nommer un seul parce que les gens vivent en fait dans des univers culturels qui sont complètement séparés.
OK. Donc, c'est vraiment ça, l'absence de référence commun là, qui rend la chose plus difficile. OK. Et puis, vous m'avez aussi parlé d'un dépôt de rapport que vous avez fait le 22 novembre. je ne veux pas devancer les recommandations que vous allez donner, mais j'aimerais peut-être comprendre plus largement c'est quoi qui vous guide dans ces recommandations-là.
Oui, certainement. Alors, évidemment, à la suite des analyses dont Benoît vient de nous parler, des analyses qui sont vraiment extrêmement exhaustives, qui sont très, très profondes, et puis pour avoir vraiment une compréhension fine de la question, on regarde ensuite un angle inédit pour essayer d'avoir justement une plus-value, comme Benoît le mentionnait également un petit peu plus tôt. Et on a des grands principes pour s'assurer que les recommandations soient les meilleures possibles et qu'elles soient mises en œuvre aussi. Alors, on mise sur la clarté, sur la pertinence qui est essentielle, sur le réalisme aussi, parce qu'on veut qu'elles soient appliquées, qu'elles soient mises en œuvre, parce qu'on croit vraiment à l'effet positif que ça va avoir. Et on regarde aussi toutes les assises légales. Donc, on s'assure qu'on s'adresse aux bonnes personnes, d'abord, pour faire les recommandations. On s'assure qu'elles auront le pouvoir d'agir. On s'assure également d'agir dans le cadre des pouvoirs qui nous sont conférés par la Charte de la langue française. Et on fait les analyses aussi là, qui vont avec ça, les analyses juridiques pour nous assurer là, d'une homogénéité de tout ça. Et les recommandations, bien, comme on veut qu'elles soient mises en œuvre, bien, on est en train également de travailler sur un suivi de ces recommandations-là auprès des ministères qui sont concernés par la mise en œuvre. Donc, on va s'assurer vraiment d'un suivi qui va être aussi rigoureux que les analyses qui sont préalables et puis pour nous assurer là, qu'on a vraiment un très bon suivi et que les effets auxquels on croit profondément, bien, qu'ils seront, qu'on pourra les voir et qu'on pourra en faire éventuellement une évaluation même.
Merci, c'était vraiment fort pertinent. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. Je pense
pareillement.
Également. est-ce que vous aimeriez nous dire peut-être un mot de la fin, une question qu'on ne vous aurait pas posée, mais un aspect que vous aimeriez aborder et partager avec nos auditeurs?
Peut-être un message justement pour les jeunes qui s'engagent dans votre programme là, de politique et droit. J'avoue, moi, quand j'ai commencé mes études, là, que j'avais l'âge peut-être de 100, il y avait comme deux choses que je savais qui m'intéressaient vaguement. Il y avait la recherche, le monde des idées, tout ça. Puis sinon, je me disais, bien, la fonction publique, ça pourrait être intéressant. Puis, mais je n'avais pas tellement d'idées, en fait, de ce que ça faisait réellement dans la vie de tous les jours un fonctionnaire. Puis même quelques années plus tard, en fait, quand je suis devenu fonctionnaire, les premières journées, je n'étais pas encore trop sûr de ce que ça faisait un fonctionnaire dans la vie. Mais ce que j'ai appris au fil des années, c'était que c'était vraiment un milieu qui était absolument passionnant. Puis moi, ça m'a amené à travailler sur des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé m'intéresser. Des fois, des sujets qui, de l'extérieur, comme Stéphanie parlait de sécurité routière, par exemple, tu sais, c'est pas nécessairement le sujet vers lequel les gens vont être attirés de prime abord. Moi aussi, les évaluations environnementales, au départ, bon, c'était pas nécessairement quelque chose qui me disait quelque chose, mais quand on entre dans un environnement, dans la fonction publique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sujet ennuyeux. Dans tous les domaines de l'action publique, on a à traiter des sujets qui sont d'une complexité extrême. Et puis, l'expertise qu'on développe, qu'on accumule au fil de nos emplois, elle finit toujours par nous être utile aussi pour faire face à de nouveaux problèmes. L'autre point aussi, moi, que j'ai toujours beaucoup apprécié dans la fonction publique, c'est l'aspect très collaboratif du travail. Et ça, moi, ça m'avait marqué. J'avais eu besoin d'une période d'adaptation quand j'avais quitté le monde universitaire. Là, je parle peut-être plus pour Marie-Sophie, parce que dans le monde universitaire, c'est un monde où on est beaucoup soi-même comme individu à l'avant-plan. Donc, on est beaucoup, c'est très personnel, hein, c'est notre thèse, c'est nos publications, c'est nos prises de parole et tout. Quand on arrive dans la fonction publique, là, l'individu doit s'effacer un peu et le résultat, c'est vraiment un résultat collectif, un résultat de groupe. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, de pouvoir travailler ensemble à résoudre des problèmes. Puis moi, je suis vraiment très, très content de l'équipe qu'on a pu rassembler. Le poste de commissaire, il est un peu unique là, parce qu'il y a comme un aspect personnel dans le fait d'être un commissaire qu'il n'y a pas dans les autres types de fonctions dans la fonction publique. Mais quand même, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, là, le commissaire à la langue française. C'est vraiment une équipe qu'on a réussi à construire. Et puis, je pense qu'on a réussi, qu'on parvient ensemble à vraiment faire avancer à la fois la connaissance et les débats publics.
Merci. Je vous rejoins tout à fait sur le fait que travailler en équipe, c'est souvent beaucoup plus valorisant que travailler tout seul sur son petit projet de recherche à part. Maître Cashman-Pelletier, avez-vous un mot de la fin également à nous donner?
Oui, certainement. Alors, pour ceux qui écoutent, les étudiants qui sont inscrits au programme dont vous nous avez parlé, je pense que ce qui est très important dans la fonction publique aussi, c'est la polyvalence. Alors, de se chercher vraiment plusieurs centres d'intérêt, c'est toujours vraiment valorisé, c'est toujours extrêmement utile. Et aussi, ce qui est intéressant dans la fonction publique, c'est qu'on travaille toujours en fonction de l'actualité. Alors, on est toujours vraiment en perpétuel mouvement, c'est en évolution, contrairement aux croyances où on pense que c'est plutôt figé, mais vraiment pas. On est vraiment collé toujours sur l'actualité avec tout ce qu'on voit de demandes dans les médias et tout ça. Donc, c'est vraiment extrêmement passionnant et on est appelé aussi à contribuer à changer le monde et à améliorer les choses à notre modeste mesure, bien sûr, mais on est tous un petit peu responsables de mettre notre partie de l'édifice pour aider à le construire. Alors, c'est vraiment extrêmement passionnant aussi.
Merci. Vous venez d'écouter « Affaires d'État, des collines aux tribunaux », le balado des programmes de droit et politique appliqués de l'État de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez, autant que nous, apprécié cet épisode avec le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, ainsi que maître Stéphanie Cashman-Pelletier, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin. Nous espérons aussi avoir participé à la connaissance et à la reconnaissance de votre institution. Je m'appelle Marie-Sophie Demoflis, je remercie également mon co-animateur, Sam Arsenault. Pour plus d'informations sur le balado ou sur les programmes en droit et politique appliquée de l'État, écrivez-nous à l'adresse dpae.droit@universitéucherbrooke.ca ou visitez le site web de l'Université de Sherbrooke. Merci et à bientôt pour un nouveau balado.